Oscillation intemporelle. Et si le dimanche à 19h était le moment d'une autre évasion sonore décalée et pas pareille sur fréquence 7, le moment d'une pause grandiose, intimiste, virtuose aussi, qui résonne de créations sonores et musicales d'au-delà de notre quotidien, ce que très largement chacun appelle selon son goût, dans notre monde occidental, musique classique, musique savante ou grande musique. Les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois, à 19h, Oscillation intemporelle vous propose de partir pour une heure à la découverte de ces musiques en suivant le fil d'une époque, d'un compositeur, d'un musicien, d'un instrument, un chef d'orchestre ou orchestre, ou d'une forme musicale. Cela agrémenté de l'histoire dans l'histoire des œuvres diffusées et de petits potins et de la raison toute mauvaise foi passionnée de leur choix. Oscillation intemporelle est animée par Marie au micro et à la conception, avec la complicité de Philippe Forger et le soutien technique de Sylvain. J'espère que cette nouvelle année 2025 a bien commencé pour vous et je vous souhaite de la continuer en vibration et sensation, humanité, révolte et résistance aussi. Diffusion unique de cet opus le 19 janvier, puisque dimanche 5 janvier était relâche décalée de votre radio préférée. Pour une écoute à votre convenance, rendez-vous sur le site fréquence7.net en lecture directe ou téléchargée. En ce frais début d'année, Philippe, qui partage volontiers ses connaissances et sa passion, nous dira qui il est et ce qu'il fait et nous parlera de Dvorak. Parce que l'œuvre que nous écoutons en entier aujourd'hui est la symphonie numéro 9 d'Anton Dvorak, la symphonie du Nouveau Monde. Philippe, qui es-tu ?
C'est chef de chœur et chef d'orchestre, mais je suis principalement chef d'orchestre. Donc en fait, je suis rattaché à aucune structure, je fais ce qu'on appelle une carrière d'artiste invité, donc je me balade à gauche, à droite. Cette saison, je vais retourner à Hong Kong en décembre, parce que je travaille beaucoup avec l'orchestre de chambre de Hong Kong. Je suis artiste associé à l'Opéra de Limoges, je suis à Thessalonique et à Athènes, je suis à l'Opéra d'Athènes. Je vais être avec l'Orchestre National des Pays de la Loire. Donc voilà, ça c'est mon métier de chef d'orchestre, donc je me balade un peu partout et j'adore ça. Et j'essaye principalement de faire du lyrique, j'aime beaucoup l'opéra, parce que c'est un métier complet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'orchestre, il y a aussi des chanteurs, il y a des chœurs, et puis il y a des éclairagistes, des techniciens, des gens qui créent des décors, des costumes extraordinaires. Donc ça, j'aime beaucoup que tous ces corps de métier puissent se croiser et œuvrer à quelque chose de commun dans une même maison. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Et puis, chef de chœur, parce que la voix, c'est quand même... quelque chose qui compte beaucoup pour moi, donc que ce soit des chœurs amateurs, je garde toujours une place assez prépondérante pour l'activité auprès des chœurs amateurs dans mon boulot, et puis des chœurs plus expérimentés, on va dire, comme le chœur d'oratorio de Lyon ou le chœur symphonique de Montpellier. Voilà, ce sont des formations avec lesquelles je travaille assez régulièrement.
Comment ils font quand t'es pas là ? Tout cela ?
Je sais pas, ils vivent autre chose, hein, fatalement, mais...
Donc tu arrives ? Tu fais travailler l'orchestre sur une œuvre,
ouais.
Le temps qu'il faut,
ouais.
Avec les chœurs si c'est un opéra,
ouais.
Et jusqu'à la représentation.
Oui, c'est ça. Par exemple, si on fait un concert symphonique, en général, on a 4 jours, 5 jours de répétition, donc ça va très très vite. Hein. Et si c'est un opéra, c'est plus 3 semaines, 1 mois de répétition. Là, je vais partir à Thessalonique, en Grèce, on fait la Traviata de Verdi, très prochainement. Donc c'est 3 semaines de répétition, et à l'issue de ça, il y a 3 représentations. Donc il y a des répétitions avec l'orchestre, des répétitions avec les chanteurs, mais il y a aussi les répétitions pour le metteur en scène.
Oui.
Donc moi, ça me permet aussi de pénétrer l'univers du metteur en scène, et ça c'est super super intéressant.
Donc le metteur en scène cale les mouvements des acteurs,
absolument,
des musiciens,
ouais.
Et toi tu cales leur voix.
Et je cale la voix, et des fois ça m'arrive de dire au metteur en scène, mais là il faudrait que vous accélériez un tout petit peu le rythme sur scène, parce que moi il me reste que 30 secondes de partition, et avec ce que vous me demandez c'est pas possible, ou des metteurs en scène qui vont demander est-ce que là on peut couper, parce que c'est trop long comme passage, non, ça c'est la partition, c'est dommage de couper ça, quoi. Mais voilà, c'est des métiers assez fascinants, donc ça c'est mon métier de chef d'orchestre, chef de chœur, et puis compositeur, voilà, je continue à écrire beaucoup à la demande de différentes formations ou de théâtre. Là, il y a un projet de composition d'un opéra sur les chaises de Ionesco. Et on est en train de travailler avec la fille de Eugène Ionesco, avec Marie-France Ionesco, parce que les droits n'ont jamais été donnés encore sur ce texte. Et donc, c'est la première fois qu'on peut mettre en musique les chaises de Ionesco. Donc, c'est assez passionnant. Et c'est un projet qui sera créé en juin 26 à l'Opéra de Limoges et à l'Opéra de Bordeaux.
Donc tu crées la musique.
Donc j'écris complètement la musique à partir de ce texte de Ionesco. Ouais, voilà.
Quoi d'autre? Enfin, vas-y, continue.
Bah voilà, c'est tout ça, c'est parce que donc, tout ça converge, tout ça c'est pour raconter la même histoire. Moi je me sens spécialiste de rien du tout, j'ai juste des affinités plus particulières avec la musique dite française et l'opéra. Ça m'a pas empêché pendant 3 ans d'être le chef d'orchestre de Jane Birkin quand on faisait le Gainsbourg Symphonique. De cette expérience, il y a eu des moments géniaux. Jane était venue à la Baume en musique, et puis on a fait le concert notamment à New York avec Jane, on s'est retrouvé avec... Iggy Pop sur scène, donc ça m'arrive, voilà, du coup je peux diriger Iggy Pop, je peux dire Charlotte et ben, Gainsbourg, et bien voilà, donc, c'est un métier où il peut se passer plein de choses, mais moi c'est la seule condition que je me fixe, c'est je veux être spécialiste de rien. Voilà, je vais essayer de demeurer le plus possible ouvert et...
De rien en musique quand même.
Ouais, mais je veux pas dire que je prétends à connaître quelque chose comme un spécialiste... Je veux demeurer disponible à ce qui se passe plein de choses. Quoi.
T'es un passionné amateur qui partage volontiers.
Ouais, non, mais ça me va bien, ça. Mais il y a autant d'émotions avec des enfants et des amateurs qui lisent pas la musique qu'avec des orchestres pros qui, des fois, faut reconnaître, ont pas envie de jouer.
Exact.
Et faut aller les chercher. Et du coup, mouiller la chemise, ouais, on sait ce que ça veut dire aussi. C'est-à-dire, si on paye pas de sa personne, soit, il n'y a pas de raison qu'en face, ça se décrète pas, quoi.
Oui.
On tend à l'harmonie, ça se décrète pas, donc c'est la nature même de mon travail, comme beaucoup d'autres qui font ce métier-là, et c'est ça qui me passionne, faut se mettre en route vers quelque chose, et comment on fait pour y arriver, et une fois qu'on y est, et ben, de toute façon, il faut tout recommencer la fois d'après. C'est le culte de l'éphémère.
Ok. La symphonie du Nouveau Monde. Anton Dvorak est né en 1841 dans un petit village du nord de Prague et est mort en 1904 à Prague. Il compose sa dernière symphonie, la 9e, en 1893, alors qu'il est aux États-Unis. La symphonie est en mi mineur et en 4 mouvements. Le premier, Adagio Allegro Molto, le deuxième, Largo, le troisième, Scherzo Molto Vivace, le quatrième, Allegro con fuoco. La symphonie est écrite pour un orchestre composé de tous les instruments à cordes de la famille des violons, premier et second violon, alto, violoncelle et contrebasse, d'instruments à vent, flûte, hautbois, cor anglais, clarinette et basson, d'instruments de la famille des cuivres, cor, trompette, trombone et tuba, et de percussions, timbales, triangles et cymbales. La version que j'ai choisi de partager aujourd'hui est celle de la Philharmonie de Radio France sous la direction de Marzena Diakoun, enregistrement de mars 2018. Vous êtes en voyage sur Fréquence 7 et Dvorak.
Anton Dvorak, c'est un compositeur romantique qui est... En fait, c'est un sujet de l'Empire austro-hongrois. C'est-à-dire, après, on va pouvoir dire la Bohème, Prague, tout ça. Ok. Mais il est né dans l'Empire austro-hongrois et il est mort dans l'Empire austro-hongrois. Donc, ça en fait un sujet autrichien. Mais dans une époque où il y a beaucoup de révolutions nationales, c'est-à-dire que il y a beaucoup de remue-ménage en Europe parce que justement le diktat des vieilles monarchies on n'en veut plus, et que justement ce qu'on appelle la Bohème à l'époque, ce serait la République tchèque aujourd'hui, elle a quand même envie de promouvoir sa propre langue, ses propres traditions musicales, et quelqu'un comme Dvorak, ça l'intéresse effectivement de faire appel au folklore, de faire appel aux danses populaires, aux chansons populaires, et à cette poésie populaire également. Donc ça va nourrir quand même beaucoup l'œuvre musicale de Dvorak, qui va faire ses classes à Prague, qui va jouer de l'alto, qui va faire partie de l'orchestre du théâtre de Prague.
L'alto-violon.
À l'alto-violon, absolument. Et puis, il va avoir un soutien de poids, puisque ses premières œuvres éditées vont tomber dans les mains de Johannes Brahms, à Vienne, lequel Brahms va dire « Là, il y a quelque chose de sérieux, il faut l'encourager, le petit gars. » Donc, le petit gars en question, il va écrire 9 symphonies, il va écrire plusieurs concertos, il va surtout écrire, et ça, on le connaît pas très bien, nous, en France, il va écrire 15 opéras. Et il va être principalement connu pour ça, de son vivant, tandis que nous, on en a retenu difficilement 2. Je m'explique pas trop, ça, parce que c'est de la musique vraiment très très belle, et que on joue Roussalka, on joue pas les autres, et je comprends pas trop ça. Comme on joue beaucoup les mêmes symphonies, les mêmes œuvres, mais bon, voilà, c'est un petit peu ça. On est un peu obsessionnel avec certaines œuvres, et on oublie d'aller explorer un petit peu, ou de remettre de la lumière dans toutes les pièces, quoi. Et Dvorak... Alors, il a une vie personnelle un peu compliquée, parce que il aura eu beaucoup d'enfants, mais il va en perdre beaucoup aussi. Donc ça, c'est assez douloureux, c'est très douloureux, et de ces périodes personnelles plus compliquées, il y a quand même des œuvres qui ressortent. Par exemple, il y a un Stabat Mater, très émouvant, de Dvorak, et ça, c'est la première œuvre qui va le faire connaître vraiment à l'international. C'est-à-dire que lui, s'est pas dit « je vais écrire un Stabat Mater pour être connu », mais il se trouve que l'œuvre, effectivement, est tellement touchante, tellement bouleversante, qu'on va l'inviter notamment à Londres pour le diriger, pour que lui-même puisse diriger son œuvre. Et puis sa notoriété va grandir encore et toujours, et puis on va lui proposer quelque chose d'assez inédit, on va lui proposer d'être le premier directeur du conservatoire qui vient d'ouvrir à New York. Donc il va quitter l'Europe, et il va aller s'installer à New York, où il n'est pas très heureux. Et il écrit avec beaucoup de nostalgie. Alors, il écrit notamment son concerto pour violoncelle, et il écrit sa 9e symphonie, dite « du Nouveau Monde », dans laquelle on a toujours dit « Ah, il y a tellement de thèmes qui rappellent les Indiens, l'Amérique, machin ». Pas du tout, ce ne sont que des thèmes de sa bohème natale qui lui manquent terriblement. Alors même s'il y a une grandiloquence de paysages par moment, et puis que c'est des peintures sonores pour nos oreilles, c'est des tableaux extraordinaires, vraiment, Dvorak leur a dit beaucoup, beaucoup, il dit, c'est ma bohème qui me manque trop. Donc après cette expérience de quelques années à New York, il va revenir à Prague, et, une gloire tout à fait méritée, c'est quelqu'un qui reste humble, qui reste assez discret, et puis qui va terminer... sa vie avec sa famille, et puis dans une vraie reconnaissance professionnelle. C'est un bel artiste.
Donc en fait, la symphonie du Nouveau Monde, c'était parce qu'il était là-bas dans le dit Nouveau Monde, mais il a parlé de sa bohème.
Oui, ça fait partie de ces premiers compositeurs qui font le voyage vers New York. C'est-à-dire, on sait que Tchaïkovski va le faire, on sait que, évidemment, au XXe siècle, d'autres le feront, parce que c'est obligatoire, à partir des années 1920, d'aller là-bas. Prokofiev va le faire, Rachmaninov va le faire, Poulenc va le faire, Britten va le faire, tous vont le faire, c'est obligatoire, c'est une étape obligatoire. Mais à la fin du 19e, c'est pas encore tout à fait le cas. Donc Dvorak accepte un poste, c'est-à-dire je quitte l'Europe et je m'y installe. Et ça devait être un petit peu compliqué pour lui, je pense.
Merci Philippe. Oscillation atemporelle est terminée. Rendez-vous en février pour un nouvel opus. D'ici là, portez-vous bien.